Bien le bonjour tout le monde. Nous nous sommes rendus en studio en ce vendredi enneigé partout au Québec, particulièrement dans la grande région métropolitaine de Montréal, pour vous souhaiter la bienvenue à ce nouvel épisode de Sortie de zone, 34e épisode en ce vendredi 7 février. Ici Mario Langlois en compagnie de Simon-Olivier Lorange. Bonjour Simon-Olivier.
Salut Mario.
Jérémy, bonjour.
Salut Mario.
Directement de Sorel, ne reculant devant rien, mesdames, messieurs.
J'ai sorti le tank et je suis arrivé, je suis heureux.
Et Philippe Quentin qui a laissé de côté la bicyclette aujourd'hui.
Ouais, non, c'est pas une journée de vélo.
C'est pas une journée de bixi.
Mais je fais pas de vélo d'hiver.
Il n'y a pas des bixi à tire ballon,
non, 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 non. Non, mais je dois dire que dans la dernière semaine, là, c'était des journées où on aurait pu faire du bixi avant la tempête d'aujourd'hui.
Ben, j'en doute pas. Écoute, je sais pas combien. J'écoutais un météorologue sur les ondes du 98.5 dire qu'il y avait eu près de la moitié du mois au-dessus du point de congélation.
Non, on aurait été très, très bien. Puis pavé sec aussi, pas de glace.
En
mais
plus.
Bon, il va falloir attendre au 15 avril, comme à chaque année.
Et on est au lendemain, les gars, d'une victoire du Canadien. Replongeons-nous dans l'ambiance de la façon dont ça s'est terminé hier en prolongation.
Armia, derrière son but, sort avec une passe. Voilà Petrie, attaque le centre, passe devant les bandes de pénalité. Rentre à la pointe gauche avec Suzuki, coupe au filet, tire, et balle! Petrie de la victoire aux Canadiens! Wow!
Beau but, le plus beau patineur de l'équipe. Y en a-tu un plus beau patineur que Jeff Petrie dans l'équipe? Je parle vraiment de la fluidité, reculons, arrière.
Non, je pense pas, c'est plus mobile.
Un des plus beaux patineurs de la Ligue nationale en ce qui me concerne. Donc, on l'échange quand, là? c'est quand est-ce qu'il faut échanger Jeff Petrie?
On a besoin contre les Leafs, en tout cas, c'est sûr.
Non, mais qu'avez-vous pensé du match? En tout cas, Jeff Molson est enthousiaste, hein? Vous avez remarqué sur Twitter?
Non. Qu'est-ce qu'il a dit?
Moi, je l'ai lu.
OK. Alors, j'aurais dû préparer mon tweet avant. Je pensais pas de commencer.
En fait, l'histoire, c'est que François Gagnon a dit il y a de plus en plus de bancs vides lors des matchs. Donc, et là, Jeff Molson a dit, moi, plutôt de remarquer les bancs vides. Puis là, je suis sûr.
Je l'ai. Merci, tu m'as donné le temps de le trouver. Alors, François Gagnon, hier, sur son compte Twitter, dit, avec le nombre de plus en plus grand de billets disponibles pour les matchs du CH, j'ai bien hâte de voir combien de fans des Leafs prendront le Centre Bell d'assaut samedi. Réplique, après le résultat final, bien sûr, de Jeff Molson, qui avait tweeté, donc c'est sa nouvelle façon de nous afficher sa position, en quelque sorte. Ça fait deux fois cette année, deux fois après une victoire en tout cas, qu'on n'était pas sûr jusqu'à temps que ça soit pas fini. Et là, la réplique de Jeff Molson, moi, j'ai plutôt bien hâte à voir une équipe qui continue à foncer, qui veut gagner. I'm very proud of the no-quit Montreal Canadiens, avec le hashtag GHG pour Go Habs Go.
Écoute, ça annonce peut-être une autre belle série de high five après le dernier match de la saison régulière quand le Canadien sera officiellement éliminé. Puis j'admire le fait que Monsieur Molson défende son équipe comme ça. Je pense que c'est son rôle. Puis si lui y croit pas, il y aurait un problème. Mais il en reste pas moins que pour moi, c'est peut-être un refus aussi de sa part de voir la réalité en face. Et on sait que ça, je pense que c'est arrivé dans son cas au cours des dernières années. Il a facilement acheté les plans de relance de Marc Bergevin, plans qui, selon toute probabilité, va encore échouer cette année, en tout cas pour une participation aux séries éliminatoires. Alors, s'il voit le no-quit, une équipe qui ne quitte pas, et c'est ça qui retire de la saison, ça veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup de changements pendant l'été. Il semble-t-il qu'il se contente de ça.
Mais excuse-moi, Simon, tu étais au match hier, puis je regarde les estrades, puis là, je ne veux pas cracher dans la soupe, mais est-ce que c'est moi ou il n'y a pas tant de bancs vides que ça?
Il y avait au moins
19 000 personnes, c'est sûr. OK? D'après moi, entre 18 et 19.
Qui ont fait peur au monde avec les prévisions de tempête.
Hier, il y a une tempête cette nuit. Mais je regarde, tu vois des sections de 2, tu peux en voir. Tu sais, c'est pas comme ce qu'on voit clairsemé comme les Panthers de la Floride.
Non,
tu sais, clairement, c'est des 2, c'est des 4. C'est pas nécessairement si vide que ça.
Mais le Canadien est un des plus gros arénas de la Ligue, c'est pas le plus gros.
Non, United Center, le plus gros.
Mais en tout cas, dans.
Pas bien loin, le plus gros.
Mais le Canadien, depuis 15 ans, il est plein. S'il y a 1000 places vides au Centre Bell, ben, c'est un problème. Bon, ça, je veux dire, c'est pas une référence de dire qu'à Winnipeg, ils sont 15 000. Ben, la norme au Centre Bell, c'est 21 000. Et si c'est moins que ça, ben, c'est le Canadien a un problème. Mais je dois dire que, comme c'est souvent le cas avec les communications du Canadien, je comprends pas très bien la stratégie de Jeff Molson, comme ça, de répondre un peu à l'emporte-pièce aux journalistes. Je veux dire, François Gagnon fait une observation sur Twitter qui est pas controversée, c'est très objectif. Mm-hmm. Et là, Molson qui revient avec une espèce de message « hop la vie », oui, je comprends que l'équipe tout le personnel, entraîneur, les joueurs disent on pousse parce que c'est leur métier puis c'est dans leur nature. Mais après ça, commencer à venir, essayer de spinner ça pour dire non, non, c'est le fun, on tripe. Alors qu'il y avait effectivement beaucoup de bancs vides. Et là, c'est sûr que Toronto, ça va être plein samedi, mais c'est les Coyotes lundi. Je pense qu'il va y avoir des bons deals à faire avant le match de lundi.
Et tu sais, ce qu'on a vu aussi, c'est que quand le Canadien tire de l'arrière à la maison par deux buts avec 5-6 minutes à jouer, là, on parle de milliers de bancs vides quand même très rapidement en troisième. Ça, des fois, je trouve que ça envoie une mauvaise image, mais je te rejoins là-dessus, Simon-Olivier, je comprends pas trop le plan de communication.
Mais moi, la seule chose où je suis pas d'accord avec Jeff Molson dans le no-quit, là, c'est que dans le match d'hier, j'ai pas vu un club qui était si désespéré que ça de gagner. En fait, on s'est sauvé avec cette victoire-là. Ça a pas été le match du siècle et des Ducks d'Anaheim et du Canadien, mais je trouve ça dommage quand même dans une situation aussi précaire que celle du Canadien de Montréal, de voir un match où on est amorphe. Là, il y a le virus. Parfait, je le comprends aussi. Il y a un paquet de facteurs, sauf que tu joues ta vie. Et j'ai pas l'impression hier qu'on avait un club qui était complètement déterminé à 100% de remporter ce match-là. Heureusement, on affrontait les Ducks et heureusement, Jeff Petrie a marqué en prolongation.
Ouais, un beau but de Jeff Petrie, mais puis je regardais les gars, les réponses, parce que quand le président et le propriétaire sortent comme ça sur Twitter, vous le savez c'est quoi, vous êtes commis de temps en temps, il y a la réplique, et il y a beaucoup de gens qui finalement sont des fans, et c'est vrai dans tous les marchés, tous sports confondus, les Browns de Cleveland ont de ces fans, les Chiefs qui ont gagné un premier Super Bowl en 50 ans ont eu de ces fans pendant toutes ces années, donc il y en a qui boivent l'eau, les paroles de tout représentant du Canadien, mais il y a beaucoup de scepticisme également qui lui est exprimé si jamais il décide de répondre. Puis il y en a qui lui reprochent justement d'attendre que son club gagne pour sortir. Puis ça fait deux fois qu'il sort sur Twitter. Il ne sort plus en public de crainte d'être pris devant un micro. Mais c'est pas banal. Quand il fait ça, il sait qu'il envoie un message. C'est un message d'appui. Mais c'est sûr que dans le moment, le Canadien a perdu seulement 3 de ses 11 derniers matchs. Alors, c'est pas le temps de venir casser le party si t'es propriétaire et président de l'équipe. Le fond de sa pensée, quel est-il maintenant?
En fait, ça nous dit
pas le fond de sa pensée. Ça nous donne...
Je pense qu'il attend comme tout le monde. Il attend de voir son club, savoir qu'est-ce qu'il va faire. Parce que un soir donné, c'est un bon club de hockey. En tout cas, un club qui est capable d'être compétitif. Puis l'autre soir, c'est un club qui est inexistant sur la patinoire. Fait que veux pas. Ouais. Si t'es propriétaire, c'est assez difficile de te prononcer.
Ben, en fait, c'est que le fond de la pensée, c'est que tout va bien. Puis je pense pas qu'il y a un engouement présentement à Montréal pour le Canadien. Je pense que Claude Julien réussit à bien gérer les attentes en disant on essaie, mais en même temps, il vend pas du rêve. Là. Je pense pas qu'il est tous les jours en train de dire ça y est, c'est fait.
Pis... Ben, sa réponse ce midi, l'as-tu entendu dans son point de presse de ce midi à Brossard? Tu étais en congé pour la presse aujourd'hui, mais grosso modo, si je vous résume son propos, il y a quelqu'un qui lui demande est-ce que les gars commencent à y croire? Est-ce que la confiance grandit? Puis tout ça. Puis Claude, de répondre sommairement, là, il dit on n'a jamais abandonné, j'ai jamais senti que quelqu'un abandonnait. Tout le monde a toujours cru qu'on avait le potentiel. Mais d'un autre côté, tout le monde réalise que parce que, tu sais, il n'est pas le gars non plus qui va venir faire croire à tout le monde, oui, puis, tu sais, ça peut faire pouet-pouet. Deux défaites de. Tu sais, je veux dire, il reste peut-être 5-6 défaites de marge de manœuvre potentiellement mathématique au Canadien.
Stéphane Leroux nous a dit hier, c'est 16-6-2 que ça prend à peu près. 16-6-2 d'ici la fin. Fait
sur une base où tu rentres en série à 97 à peu près?
À 97. 16-6-2.
Ça se peut que tu dois rentrer à 99, 100.
Fait que, mais pour 97, c'est à peu près 16-6.
Ben, je trouve qu'il se donne pas mal de lousse à 6-2. Moi, je pense que. Puis il va falloir que les Canadiens fassent quelque chose qu'ils n'ont pas réussi. Ils ont deux séquences de 3 victoires de suite, Philippe.
Moi, pour revenir à Jeff Molson, ce que je sens aussi, c'est de plus en plus peut-être, et ça, je pense que le Canadien devrait être prudent avec ça, c'est une brisure entre l'organisation et ses fans. C'est-à-dire que tout à coup, on sent que l'organisation n'est pas au même diapason que ses fans, qui ne sont pas capables de lire ce que les fans pensent. C'est sûr que si tu vas au Centre Bell, puis c'est là que tu te mêles à la population, puis là, quand on annonce « Mesdames, Messieurs, voici nos Canadiens », puis là, le bruit, la musique, là, tu dis « Hey, ça marche notre affaire ». Mais promène-toi à Montréal, discute avec les gens, et puis les gens commencent à être impatients. Ils se demandent pourquoi cette équipe-là n'est pas capable d'avancer. À chaque année, on leur fait des promesses. La défensive va être meilleure cette année. Ben non, la défensive n'a pas été meilleure. Vous vous souvenez de cette fameuse promesse-là de Marc Bergevin? Au tournoi de golf, Jeff Molson, tout sourire, des lendemains qui chantent à chaque saison. Ça ne se matérialise pas. On nous vante les jeunes. Sont où les jeunes? Sont à Laval. T'sais, ils ont commencé à Montréal, sauf...
Enfin?
Ben oui, peut-être. Mais tu sais, c'est signe encore qu'il y a du temps. Alors moi, je pense qu'il commence à avoir une brisure. Et ce commentaire-là l'illustre parce que lui, Jeff Molson, il dit, moi, je préfère applaudir les Canadiens qui n'abandonnent abandonne pas. Mais je suis pas sûr que c'est ça que le monde voit de façon rebaptise, générale.
Là, c'est no quit ouais, no Canadiens. Quit. Là, c'est
no, no quit, tu sais. Puis je suis d'accord avec toi, Jérémy. Tu sais, no quit, là. Faut
non, mais dans le match hier, ça paraissait pas tant que ça. Là, mais,
et dans bien des matchs. Ouais. Et dans bien des matchs, ça, tu sais, ça. Puis même Claude Julien nous dit souvent, tu sais, je leur dis quoi faire, puis ils le font pas. Mm. Tu sais, ben, regarde, je dis pas qu'ils quittent, c'est pas ça que je dis. Mais ils sont pas affamés, là, de façon absolument incroyable.
Mais juste pour ajouter à ce que tu dis, eux, à tort ou à raison. Moi, j'ai pas les statistiques. Ils font des focus groups, eux autres, là, comme entreprise. Ils ont sûrement des sondages internes, comme des boîtes médiatiques peuvent en faire. Et je sais, parce que, bon, on a toutes nos façons d'avoir un petit peu comment ça pense à l'intérieur. Puis eux, ils pensent vraiment que, tu sais, les médias, c'est un mal nécessaire. Ça, c'est moi qui le dis, pas eux. Pour parler à leurs fans. Fait que quand ils viennent, ils disent, c'est à nos fans qu'on parle pas. Mm-hmm. Eux autres, ils disent, mettons, aux cinq. Souviens-toi de Carey Price, exemple, là. Tu sais, on lui a dit, Carey, il y en a 5% qui t'aiment pas, puis tu sais, l'ovation de fin d'année. Fait que pour eux, ça a juste comme cimenté cette perception-là. Nos fans, ils nous suivent, ils savent ce qu'on fait, ils nous aiment, ils aiment nos joueurs. Ceux qui conspuent Carey Price, ceux qui critiquent Marc Bergevin, ceux qui en ont contre le Canadien, c'est pas des fans, c'est du bruit. Et je pense qu'ils travaillent dans cette idée-là.
Il appelait ça White noise.
Ou
white
raison.
Noise. Il a parlé d'un moment donné white noise dans un point de presse. C'est ce que Marc Bergevin a parlé pour dire un bruit qui peut agacer. Moi, messieurs, je veux juste vous dire, je suis pas psychanalyste. Puis humblement, je veux juste vous donner mon point de vue, OK? Puis vous me direz ce que vous en pensez. Moi, j'ai la chance d'être souvent là, bonsoir les sportifs, et d'animer les tribunes téléphoniques après les matchs et entre les matchs. Donc, après les matchs, on peut comprendre que les gens sont enthousiastes suite une victoire ou une défaite.
Ben oui.
Entre les matchs, ça permet à monsieur, madame, tout le monde, ça permet aux gens d'embarquer dans une conversation. Ce que je constate, moi, personnellement, c'est que tu as dit, il y a une brisure entre les partisans du Canadien et l'organisation. Moi, je pense que j'ajouterais une autre différence là-dedans, c'est que à l'intérieur du clan des partisans, j'ai l'impression qu'il y a une division entre les deux. Il y a une division entre les deux, entre ceux qui ont connu les époques glorieuses du Canadien. Et je parle pas des années 50-60, mais plutôt
70
et jusqu'aux deux dernières Coupes Stanley. Il y a cette gang-là et la nouvelle génération qui n'a pas vu le Canadien de Montréal gagner des Coupes Stanley, qui, elle, aime le spectacle, est consciente que le Canadien doit gagner davantage, mais n'est pas autant impliquée émotivement que l'ancienne garde qui, elle, le prend bien personnel. Comprenez-vous? Fait que moi, le soir, j'ai des gens qui m'appellent, qui me disent, tu sais, on peut-tu... Tu sais, là, le hockey boomer, là, j'entends ça dans plusieurs phrases en disant, hey, relax, là. On relaxe, les amis, parce que ce club-là, c'est un club qui est pas champion, mais je les ai jamais connus champions.
C'est drôle parce que je viens de terminer, il y a 2 heures à peine, l'écriture de ma chronique qui est publiée dans la presse demain. Puis je parle du retour du baseball majeur, la garde partagée, mais je fais tout à coup un lien avec le Canadien. Et ce que tu dis, c'est à peu près ce que j'explique. Alors, je te rejoins entièrement là-dedans. La jeune génération voit pas les choses nécessairement de la même façon que ma génération
c'est
à moi.
Pas de mauvaise affaire,
non,
j'imagine,
ben, pas
pour
du
la
tout,
business.
C'est une autre façon de voir les choses, puis chaque génération les voit à sa façon. Puis c'est ça, aujourd'hui, c'est comme si tout le monde espère une Coupe Stanley. Mais il y a personne qui l'exige, ben, dans les plus jeunes. Les plus jeunes,
exact.
Parce qu'ils disent, c'est autre chose, puis c'est l'événement, puis c'est le fun d'aller voir un match, puis de regarder ça.
Oui.
Puis quand le match est fini, puis que la saison du Canadien est finie, ben, il y a d'autres choses.
Exact. La fidélité n'est pas
parce
aussi grande qu'à l'époque.
L'offre sportive est rendue tellement large, tellement importante. Là. Imaginez, là, cette année, quand le Canadien, ça va se terminer au mois d'avril. Si vous aimez le sport, là, il y a 40 ans, c'était pas nécessairement comme ça. Tout n'était pas télédiffusé. Moi, j'adore le sport. Quand le Canadien, là, ça va être fini, j'écouterai plus le Canadien à partir du 7 avril. Là, je vais avoir le tournoi des maîtres à télé. Après ça, je vais avoir toutes les séries de la Coupe Stanley. Après ça, je vais avoir l'Euro qui va commencer, qu'on va suivre partout. Ça va être tout un tournoi.
Hey.
Puis quand l'Euro va être fini, on s'enligne pour 3 semaines de Jeux Olympiques.
Mais je te dis, ces kids-là.
Pas pire quand même.
Excuse-moi, je te coupe, je suis désolé.
On a moins le temps de s'ennuyer.
Non, mais je te dis, ces kids-là vont continuer à suivre le Canadien, par contre, à savoir ce que Bergevin va faire, ce que Jeff Molson va faire, mais pas avec la même âme que l'ancienne garde. Vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, je suis désolé.
C'est beau, c'est que j'ai l'impression que le Canadien prend pas soin de sa marque, dans le sens que la marque canadienne est extrêmement forte pour des raisons évidentes, ces raisons-là étant les 24 Coupes Stanley. Mais quand, quand la 24e, ça fait plus de 25 ans, ça va faire 27 ans ce printemps, ben, la marque, elle peut pas vivre juste avec ça. Et la jeune génération dont vous parlez, ben, c'est pas ce branding-là, pour bien parler français, ça lui parle pas, ça, les 24 Coupes Stanley, parce qu'ils ont pas vu. Fait que j'ai l'impression qu'il y a pas d'effort, justement, puis je reviens à ce que je disais au début, je comprends pas le message qu'essaie d'envoyer le Canadien et les communications du Canadien quand les manières de voir Bergevin s'adresser au public, c'est en vendant des traitements au laser pour les yeux ou des burgers.
Alors ça, je suis content quand, que tu l'amènes, honnêtement.
Quand Molson tweet, le no-quit team, alors que l'équipe, cette semaine, a eu toutes les misères du monde à battre deux des cinq pires équipes de la Ligue nationale. Fait que je comprends pas le message.
Faut faire attention.
Formaté,
les Devils, quand même, ont trouvé le moyen de planter les Flyers de Philadelphie. Avaient perdu quand même aussi deux matchs en prolongation, entre autres contre les Stars de Dallas.
On peut dire qu'ils sont mauvais. Jérémy, il manquait pas mal de joueurs en plus.
Ouais, non, vous avez raison.
Il manquait trois gros joueurs.
Mais ce que je peux dire, c'est que le Canadien a trouvé le moyen juste d'aller chercher deux points. Avec le money and run, c'est ce qu'on a fait, là.
Mais c'est un peu comme si tu revenais à dire tantôt, le Canadien n'est pas sorti comme un club désespéré qui doit prendre des points. C'est à tout prix pour qu'ils gagnent. Heureusement pour eux, ils ont gagné parce que les conséquences de deux défaites de suite, je pense que justement, peut-être que Molson aurait été moins heureux sur Twitter hier soir après deux défaites contre ses équipes.
J'ai vu les annonces de Burger, mais j'ai pas vu les annonces de traitement au laser.
Ben, je la cherche, là. Mes médias sociaux sont bombardés. Et honnêtement, il y a quelque chose. Puis d'ailleurs, c'est une des premières questions que je vais poser à Marc Bergevin s'il est encore en poste au bilan de fin de saison. Là, juste pour mal faire, j'aimerais ça faire une petite pause dans le podcast pour pas vous faire attendre le temps que je le trouve. Mais en tout cas, là, je ne l'ai pas. Mais grosso modo, c'est une photo. Mais non, c'est pas juste une pub, c'est une vidéo. Là. Il y a une vidéo d'une minute et demie où il fait un témoignage puis tout ça. Puis là,
est-ce que c'est un problème?
Grosso modo, il est en contrôle. Le message là, que malheureusement, je trouve pas. Puis sa vision est plus claire grâce à l'opération laser. Mais c'est sûr et certain que tu sais l'amateur moyen, puis nous, qu'on aime bien ça, des fois, virer ça un peu, veut dire, il y a un lien entre la vision sur son club, sur son développement. Tu fais pas des slogans en pensant pas ce que le gars fait dans la vie. Ça ouvre la porte. Comme on vend des burgers, c'est-tu drôle? Ça a pas été diffusé bien longtemps. Non, hein, quand on commençait à perdre des défaites de façon consécutive.
Souvenez-vous, à l'époque...
Connaissez-vous bien des GM qui font de la pub, vous autres, dans leurs équipes en Amérique du Nord?
Moi, ça me dérange.
C'est-tu un gars qui veut faire de l'argent avant de partir?
Non, mais souvenez-vous, à l'époque, José Théodore avait commencé à faire de la publicité, puis je pense que tout le monde regardait ça d'un œil étrange en disant, mais pourquoi qu'il commence à faire ça? Je pense que c'était une des premières fois, outre les grands, là, les Lafleur, les Maurice Richard, puis les Jean Béliveau, c'est le premier qu'on voyait faire de la publicité, puis j'ai l'impression qu'on trouvait ça un peu bizarre. Moi, personnellement, que Marc Bergevin veuille me vendre des burgers, je ne vais pas plus acheter de burgers parce que c'est Marc Bergevin qui me le dit. Maintenant, est-ce que ça dérange parce que le Canadien ne connaît pas du succès? Est-ce que ça dérange parce que Bergevin est têtu, puis il fait juste à sa tête? Je sais pas pourquoi ça dérange. Moi, je me pose la question.
Mais toi, ça te dérange pas, visiblement.
Moi, personnellement, je m'en fous comme dans la 40.
Que... Ben, moi, je trouve que ça laisse entendre que le Canadien, parce que j'imagine que le Canadien autorise ça aussi, là, ben Marc Bergevin, ben ça régale le Canadien, donc il faut que Jeff Molson soit d'accord avec ça quand le projet est présenté. Ça veut dire que le Canadien choisit, en quelque sorte, Jérémy, de faire de Marc Bergevin une de ses sa principale tête d'affiche. Alors là, compte tenu de ses insuccès répétés au cours des dernières années, quatre absences de séries éliminatoires en 5 ans, selon toute probabilité, tu te demandes à quelque part si on veut pas essayer d'en faire un artificiellement, tu sais, un bon gars qu'on va aimer parce qu'on le voit dans des pubs à télé, puis il est sympathique avec Carbonneau, avec les burgers, puis bon, l'opération laser. Puis ça, moi, je trouve ça un peu bizarre.
Ben, puis aussi, c'est que si on prend la symbolique de tout ça, je comprends que les pubs de McDo, ça a dû être 2 jours dans son été, puis la ZIC, mettons, une troisième journée, je sais pas quand. Fait que très concrètement, ça y a pas empêché de faire rien, mais je trouve que le symbole que ça envoie, c'est, ben, ça me dérange pas d'avoir une équipe qui fait pas les séries, mais j'ai du temps à consacrer à aller vendre des burgers. Fait que ce que je veux dire, c'est que c'est un peu ce que tu soulevais. Si l'équipe allait bien, je pense que tout le monde serait
content.
Il était drôle.
Moi, ça me dérangerait pareil un peu, je vous avoue, parce que nommez-moi un GM en Amérique du Nord, tout sport confondu, qui fait de la pub.
Le principe me dérange pas. Puis plein de joueurs l'ont fait les dernières années, justement, avec McDonald's.
Non, mais les joueurs, mais le dirigeant de ton organisation, y a-tu besoin de ça pour vivre, lui?
Le principe me dérange pas.
Tu vas me dire, c'est vrai pour le joueur, 10,5, il n'y en a pas besoin.
Tant qu'un annonceur qui décide de payer des centaines de milliers de dollars, je sais pas comment est-ce qu'il y a eu, mais tant qu'un annonceur qui est prêt à payer pour aller chercher un porte-parole, je veux dire, moi, est-ce que je vais intervenir dans la décision de McDonald's de dire pourquoi vous avez choisi Marc Bergevin? Maintenant, je trouve que là, on change
pas. Ça, pourquoi ils l'ont accepté, eux? Que tout le monde y fasse des pitchs, puis dire, veux-tu être mon porte-parole? Ça leur appartient.
Non, mais c'est eux qui ont choisi. Ils ont dit, OK, parfait, numéro 1, on prend Marc Bergevin.
Non, mais eux, ils ont accepté. Le Canadien a accepté. Marc Bergevin a accepté.
OK,
mais il a signé son nom sur le contrat, puis il trouvait ça bien drôle au début, j'imagine. Puis regarde le ton des pubs, là. Ça t'indique que le brainstorming a lieu dans la bulle, là.
Oui.
Tu sais, pour trouver ça drôle. de se moquer de l'image qui a développé qu'il y aurait une grosse tête ou qu'il serait entêté, puis que ça soit approuvé, c'est parce que là, les publicitaires connaissent bien le monde à qui ils font affaire. Tout le monde s'entend bien là-dedans. Ils sont dans la même bulle. Moi, c'est comme ça que je le vois un peu. Si ça tourne bien, puis t'as une année de championnat, t'as l'air fin, mais disons que les probabilités t'amènent que ça soit le cas cette année, là.
Tu vois, ben, on est loin de la game, là.
On est loin ça, de la game, mais là.
Je sais pas, là. Ça fait partie de la game dans son sens large, là.
Mais je peux comprendre. C'est quoi le pourcentage, des après-matchs qui parlent de la game? Le monde aime ça parler du perron de l'église. Le monde,
Je suis pas d'accord
souvent,
avec
c'est le bruit autour. Regarde les expos, on se demandait si Vladimir parlait français, Sakou, s'il parlait français.
Ça a changé, Mario. Sincèrement, je t'invite, viens faire un tour. Sincèrement, je te dis.
J'écoute la radio, là. J'écoute tous les postes.
Sincèrement, c'est pas si juste le white noise.
Pour laquelle ça, là, on tombe dans tout un débat, par exemple. Mais il y a une raison. Il y a une... OK, mais c'est une théorie que j'ai en tête depuis longtemps, puis c'est le bon temps pour la donner. Si on parle autant aujourd'hui du jeu en tant que tel, de la stratégie, l'ailier devrait aller là, le centre devrait aller là, à la pointe, on devrait se tenir comme ça. Et si on parle autant de statistiques avancées, c'est parce qu'on a un accès de plus en plus limité aux joueurs. Alors, la nature ayant horreur du vide, il faut compenser. Tu sais, puis là, je vais faire mon oncle, mais je vais l'assumer. Quand je couvrais le Canadien, puis qu'on voyageait avec les joueurs, on pouvait s'asseoir pour un tronçon de vol avec un joueur du Canadien, on ramassait une bonne histoire. Quand on parlait à un joueur dans le vestiaire, une journée d'entraînement, il n'y avait pas 4 Kodak qui arrivaient pour venir prendre l'entrevue en même temps que toi.
Hein? Jusqu'à?
Jusqu'à, ou 5 ou 6. Alors, tu sortais des histoires. Donc, la machine hockey générait plus d'histoires, pas exclusives, entre guillemets, c'était pas des scoops, mais des histoires qui généraient des commentaires puis auxquels on pouvait, sur lesquels on pouvait
parler.
Et
c'était quel genre d'histoire, juste savoir, Philippe?
Ben, tu sais, par exemple, un gars comme Carbonneau, quand la saison, tout à coup, en février, ça allait mal. Puis là, il commençait à parler de la fatigue morale puis de la fatigue physique. Il était super intéressant. Quand Benoît Brunet analysait pourquoi il avait lui-même ses propres succès, ses propres échecs, c'était super intéressant. Quand Patrick Roy se choquait parce qu'il trouvait qu'il avait perdu 4 matchs en ligne puis il était pas content, ça brassait. Il était capable de parler. Aujourd'hui, je te mets au défi d'entendre. As-tu entendu un commentaire de la part du vestiaire du Canadien cette année qui était minimalement controversé.
Gallagher, dernièrement, sur Kotkaniemi, en disant en avantage numérique, ça se mérite. Il l'a dit récemment.
Ben, je trouve pas que c'est controversé. C'est un commentaire de leader. Donc, le seul commentaire controversé est venu de Laval, quand Kotkaniemi a dit que c'était son plus beau jour de l'année dans une défaite.
C'est ça. Alors, donc, moi, je trouve que c'est pour ça qu'on se rabat un peu sur le jeu, puis qu'on se rabat beaucoup plus sur la technique, puis tout ça, parce que le reste est moins alimenté qu'à une certaine époque. En tout cas, c'est comme ça que je vois ça.
Bon. Pas grand-chose à rajouter.
Écoute, mais un jour, le média est devenu l'ennemi. Je sais pas c'est quand la date, le jour, mais les médias sont devenus l'ennemi. Et c'est comme ça qu'ils nous voient pas mal.
Peut-être la journée où ils ont décidé de sortir les médias de l'avion du Canadien.
C'est la suite de tout ça, et ça permet de
se braquer, de se motiver quand t'as pas d'autres raisons plus originales de dire ben on va leur prouver ces méchants médias là qu'on est meilleur qu'ils pensent. Et c'est comme ça que ben des équipes fonctionnent maintenant.
Moi je pense que si tu regardes avec le Canadien, regarde, je vais y aller avec une autre thèse. Je pense que on cherche une date. Moi je pense que ça a commencé à être plus dur après la transaction de Patrick Roy à l'Avalanche du Colorado et sa sortie et tout. Parce qu'à partir de là, Mario Tremblay, qui était l'entraîneur, et Réjean Houle ont été jugés très sévèrement dans les médias, notamment par les columnistes. Et là, ça commençait à brasser. Ça a été super dur pour Mario, qui s'est choqué plusieurs fois. Réjean Houle, il a souffert. Et là, à partir de là, toutes les relations ont été beaucoup plus compliquées entre les médias et la direction du Canadien.
On a senti besoin de mieux les protéger.
Oui, exactement. C'est à peu près à ce moment-là que c'est arrivé.
En tout cas, je dirais une chose, somme toute, c'est que pour moi, un directeur général doit être jugé sur son travail, qui est présentement peut être chaotique si 4 fois en 5 ans, tu ne fais pas les séries, et non pas sur des pubs. Pour moi, là, c'est une publicité,
J'ai quand même un problème. Puis même les joueurs, je ne sais pas s'ils trippent sur le fait que leur DG est 10 fois plus visible qu'eux autres.
Ben, le savent c'est le même, d'abord. Je veux dire, tu sais, est-ce que je
peux pas... Ben, ça tapait ses nerfs que Piqué soit visible. Fait que tu penses que le DG soit pas visible, ça dérange
ça,
pas.
Non, ça tapait sur les nerfs de bien des gens chez le Canadien aussi.
C'est, non, mais
le
c'est deux poids, deux mesures.
J'ai voulu le rappeler tantôt, mais j'ai dit, je m'embarque pas là-dedans, mais là, si tu le fais, c'est correct. Mais je l'avais sur le bout de la langue pendant. Mais je l'ai dit-tu? Non. Mais là, tu viens de le faire.
C'est fondamentalement, tu sais, je garde. Ça m'empêche pas de dormir, là, mais...
Non, mais gagne des matchs. Tu gagnes pas des matchs.
Nomme moins DG qui fait de la pub en Amérique du Nord.
Écoute, je sais pas. Ben, je peux pas te dire.
Il y a pas de nom, il y en a
de je pense que je connais pas assez les comparatifs.
À part un gars à la retraite, tu sais, des gars à la retraite qui vivent sur leur légende.
Je connais pas le marché local de chaque place. C'est peut-être que dans le marché local.
Peut-être aussi que quand t'as pas été un joueur vedette, tu vis quelque chose que t'as pas vécu comme joueur.
Mais moi, c'est
de devenir un DG vedette, humainement parlant, je le sais pas. Je pense tout haut.
Mais moi, j'insiste, c'est pas une question de principe que le DG puisse le faire ou ne pas le faire. C'est l'idée que, justement, les résultats doivent suivre ou l'équipe doit envoyer un message de continuer une tradition d'excellence.
Fais-moi des annonces de bottes Kodiak,
tu sais. Après ça, vends ce que tu veux, mais...
des bottes Kodiak, si tu piques par appel, puis on up away, on bûche, on travaille. Tu sais, à un moment donné, associe ton annonce à ce que tu vis. C'est-tu fini pour les annonces, ça?
Oui, je regarde le panneau, là, en ce moment. Il est pas assez gros. Occupe-toi-en.
C'est parce que là,
c'est mal choisi comme timing.
C'est une façon imagée de parler de la grosseur de son club, qui a de la misère contre les gros clubs. Fait qu'il se revanche chez Panneau, psychologie inversée.
Non, mais là, écoute,
arrête, j'ai mal à la tête.
Bon, sortez-moi de là. Là, je suis Petri.
Alors, une pause publicitaire, on a des annonces de Burger, de la Six, je pense.
Mais les gars, et il faut, pour se consoler, il faut se comparer à des marchés où c'est difficile. Comme ça, ça nous fait comprendre que même si c'est difficile ici, nous devons être heureux. Et donc, en conséquence, et là, soyons heureux à parler des Leafs de Toronto qui sont les visiteurs. Non, mais je vais vous dire une affaire. Là. Je suis pas cynique, pas une seconde. Je vais être cohérent avec ce que j'ai dit en début d'année. Mais il manque quelque chose à l'affaire. C'est que les jeunes ne nous montrent pas de promesses, n'incarnent pas beaucoup d'espoir, à part Suzuki, vraiment, qui lui se démarque. Mais je dis, moi, je veux une équipe compétitive. Je comprends que ça va être difficile de faire les séries. Puis je veux qu'ils se battent. Puis je veux qu'ils élèvent leurs jeunes ou leurs, tu sais, dans une ambiance où on essaie de gagner. Alors, c'est ça que je vois. Essayer, t'as pas convaincant tant que ça hier, mais le résultat, c'est qu'ils ont gagné. Ils ont perdu 3 dans le 11 dernier. Et demain, samedi, si vous nous écoutez samedi, donc samedi soir, le match Leafs canadien, je vais le regarder de la première seconde, probablement la dernière, parce que, donc, c'est encore une espèce d'enjeu. Je veux les voir gagner. Et peut-être que s'ils gagnent demain, ben ça va être encore le cas la semaine prochaine et dans 2 semaines. Et moi, s'ils finissent l'année, c'est sûr que, regarde, j'y crois pas au miracle, là. Mais s'ils finissent l'année dans quelque chose qui est convaincant au niveau de tu sais, tu sens un esprit de corps là, de quelque chose, ben je vais être peut-être plus compréhensif.
Ouais.
Peut-être.
Moi, j'ai dit hier après le match, puis je veux vous partager les boys, puis je veux savoir ce que vous en pensez, mais j'ai dit après le match, là, il y a des gens qui m'appelaient qui disaient, tu sais, j'y crois à ça, j'y crois. Moi, je t'en demande, je dis, savez-vous quoi? J'ai l'impression que c'est pas notre job de croire ou de pas croire. Notre job, c'est de regarder qu'est-ce qu'ils font. Tu sais, là, on part du match contre les Leafs de Toronto, là. Puis tu me dis, tu sais, j'espère. Puis ça. Moi, je regarde les 2 derniers matchs, le nombre de pénalités stupides que le Canadien a pris. Changement, trop d'hommes sur la patinoire, des pénalités, accrochage. Tu te dis, attends, là, ça fait 2 matchs que tu connais ça, ça fait 2 matchs que tu te sauves avec les points, puis tu penses contre les Leafs de Toronto que tu vas être capable de changer du tac au tac, de changer, pas prendre de mauvaises pénalités. Excuse-moi, les Leafs vont les détruire si on prend des mauvaises pénalités du côté du Canadien. Fait que donc, là, ça prend la switch, là. Là, faut que tu fermes.
Là, ils vont être plus concentrés à cause de l'enjeu du match, à cause de la télévision nationale. Ben, et regarde, je revisitais ce matin avant d'arriver à la station, là, j'essayais de décortiquer puis de trouver un sens à quelque chose dans tout ça, dans toutes les défaites à domicile du Canadien, puis même les défaites sur la route. C'est rare qu'ils se font, à part un match de 8-1, je pense, contre Boston, qu'ils se sont fait humilier, là, qu'ils se sont fait sortir, même s'ils ont perdu. Tu sais, d'ailleurs, ils ont presque le record, sont au sommet de la Ligue pour les défaites par un but. Mais clairement, il y a eu un manque de concentration évident contre les équipes qui pensaient, dont ils pensaient disposer sans problème. Quand ils jouent contre des bonnes équipes, t'as peur d'avoir l'air fou, fait que normalement, tu te présentes un peu plus.
Mais là, les Leafs, en fin de semaine, c'est une bonne ou c'est une pas bonne équipe?
Ben, c'est une bonne question.
Excellente équipe.
Un bon club avec un point d'interrogation devant le
filet. Ben, c'est une excellente équipe.
Niveau gardien.
Ne joue pas bien.
Mais c'est ça.
Deuxième gardien des Kings.
Une excellente équipe qui n'a que 4 points de plus que le Canadien au classement en ce moment et qui, au moment où l'on se parle, est exclu des séries, les gars. Est-ce que c'est plus difficile d'être un partisan des Leafs qui pense que son club peut gagner la Coupe Stanley ou un partisan du Canadien qui doit se résigner à l'effet que son club va probablement manquer les séries?
Ben, je vais répondre en premier. Moi, je dis que c'est beaucoup plus difficile d'être un partisan du Canadien parce que les Leafs, tu dis, écoute, il y a tellement de talent que tout à coup, ça va finir par fonctionner, comme avec les Oilers d'Edmonton qui ont raté les séries avec McDavid. Mais tu dis, écoute, avec McDavid, ils vont réussir un jour. T'sais, et là, cette année, c'est bien engagé pour eux. Alors, je trouve que c'est plus difficile pour le Canadien parce qu'il y a moins d'espoir.
plus difficile d'être partisan du Canadien de Montréal. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que les partisans des Leafs de Toronto ont été rassasiés. Avec les grosses signatures du côté des Leafs de Toronto, les gros joueurs qu'on a amenés, le nombre de buts qu'on est capable de marquer par match, l'impression que tout le monde...
Le show est généralement pas pire.
Ouais, la bédaine assez pleine. Mais tu sais, il faut se rendre compte d'une chose.
Ils se contentent de pas grand-chose.
Exactement. Mais l'an passé, le Canadien a terminé à 2 points des Leafs de Toronto. Là, cette année, on est à 4 points des Leafs de Toronto avec un club complètement différent, mais toujours le même problème pour les Leafs devant le filet. Quand c'est pas Anderson, là, on a amené Jack Campbell. Moi, sincèrement, c'est un deuxième gardien de but avec les Kings. Là, je veux dire, c'est pas le Messie qui s'en vient, là, selon moi. Mon opinion, là, peut-être ça sera complètement différent, puis ça sera son éclosion pour lui, je le souhaite, là, mais c'est encore un point d'interrogation, là.
Je pense que c'est peut-être plus... j'imagine que c'est plus difficile d'être un partisan des Maple Leafs dans mesure où, c'est justement, ont-ils été rassasiés? Parce qu'en termes de bons joueurs, ça, il n'y a aucun problème. Des bons joueurs, il y en a à la pelletée chez les Leafs. Mais en termes de résultats, c'est effrayant. Que si cette équipe-là manque les séries cette année, c'est une catastrophe. Déjà qu'il a perdu contre Boston les 2 dernières années, qu'il n'avait pas réussi à gagner une ronde depuis... depuis probablement le début des années 2000.
La dernière fois qu'ils ont gagné une ronde éliminatoire, c'était en 2004, en série 2004.
16
ans. Et depuis, donc parce qu'il y a eu un arrêt de travail, vous savez, ouais. 2004-2005, et en 2005-06, ils manquent les séries pour 7 années consécutives, font les séries une fois d'ailleurs, ils avaient failli éliminer les Bruins, souvenez-vous-en, puis il y avait une remontée de fin de match, et ça s'est effondré, Randy Carlyle était club, là ils sont sortis en première ronde, ils ont raté les séries 3 années de suite, et là ils viennent de perdre 3 années de suite en première ronde également, fait que ils ont gagné leur dernière ronde éliminatoire en 2004.
Présentement, on est en, tu sais, Montréal est dans tous ses émois parce que le Canadien essaie de pousser pour faire les séries en étant loin. Les Leafs ne devraient pas être dans la même conversation que le Canadien présentement. Le match de samedi devrait pas être plus significatif pour les Leafs que pour le Canadien. C'est un non-sens. Fait que moi, je me dis, si je suis un partisan des Leafs, je me demande quand est-ce que ça va finir et quand est-ce que ça va changer, quand est-ce qu'il va avoir un défenseur capable de faire son travail dans cette équipe-là. C'est sûr que présentement, Morgan Riley est blessé. Quand est-ce qu'un gardien de but, le adjoint va être capable d'arrêter une rondelle. Michael Hutchinson, qui est resté là, qui a joué quand même 15 matchs cette année avec un pourcentage d'arrêt de 868. Ça, c'est des chiffres, c'est même pas des chiffres des années 80, ça n'a aucun sens. Et là, on amène Campbell, qui est à 900, qui est très en dessous des standards de la Ligue nationale. Je suis content. Ils ont eu Clifford dans l'échange, qui je pense peut leur donner un coup de main dans leurs 2 derniers trios. Mais faut pas que ce soit fini à Toronto, le magasinage, parce qu'ils sont pas rendus.
Ils sont limités sur le plafond salarial. Ils n'ont pas tant de choses à donner, à moins qu'ils jouent dans leur talent, un peu en dedans de l'écorce, là, ou autour de l'écorce, ou du noyau, pardon. Là.
Ben, chaque année, Kapanen et Johnson se retrouvent dans les discussions parce que c'est les rares joueurs à bas prix ou à prix abordable dans cette équipe-là qui peuvent changer d'équipe. Mais, tu sais, ils ont pas énormément de monnaie d'échange, à moins de piger dans leurs espoirs. Ils n'ont pas de choix de premier tour pour l'année prochaine.
C'est drôle, quand on regarde la formation des Leafs de Toronto, moi, je repense toujours aux propos d'Alexander Ovechkin. Tu sais, lorsque Ovechkin a dit il faut que ce club-là apprenne à gagner, c'est normal ce qui se passe, on va apprendre à gagner. Puis là, on était bien offusqué du côté des Leafs de Toronto. Regarde, on le respecte, Ovechkin, mais mêle-toi de tes affaires. Mais je pense qu'on est là. Il y a de la maturité à aller chercher un gars comme Austin Matthews. Le gars marque des buts. C'est une machine à marquer des buts. Est-ce que, tu sais, en série de fin de saison, un bon joueur de hockey, là, c'est qu'est-ce que tu es capable de faire quand tu ne peux pas faire ce que tu es le meilleur à faire? Ce que ça veut dire, c'est Austin Matthews, si tu es marqueur de but, puis qu'on met un gars, deux gars sur toi, puis tu n'arrives pas à marquer de but, qu'est-ce que tu fais, toi, dans ce club-là? Puis Austin Matthews fait pas grand-chose s'il marque pas de but. C'est ça le principe, là. Fait que donc, t'es rendu où avec ton noyau? Comment ce club-là va arriver à sortir du pétrin? Je pense que c'est juste les années qui vont faire en sorte qu'il va enquérir de la maturité.
On vit dans un monde d'équité salariale, de parité salariale, très certainement. Puis c'est sûr que ça influence la donne. Quand t'as 3 joueurs au-dessus de 10 millions ou autour de 10 millions de dollars, t'es peinturé dans le coin. Là. Tu dois vraiment gagner avec ces gars-là puis bien les entourer. Alors, il y a des équipes qui ont un noyau de talent exceptionnel, mais sont pas capables de les entourer. Il y a des équipes qui, finalement, ont quelque chose qui ferait un emballage exceptionnel. Mais tu sais, faisons juste le jeu, là, sans que ça soit trop exhaustif, là. Des équipes bourrées de talents qui sont pas capables de gagner puis depuis des années. Regarde Tampa Bay, là. Ça reste à prouver qu'il faut qu'ils la gagnent, la coupe. Regarde l'alignement de cette équipe-là. Là. Ils l'ont pas gagné. T'sais, ils l'ont gagné, ça fait un bout de temps. Là,
ça passe beaucoup par le gardien. Mais selon moi, le gardien fait la différence avec le Lightning.
Regarde, Edmonton ont McDavid, mais ils ont eu d'autres joueurs, là, des Taylor Hall. Tu sais, je referai pas toute la liste. Les gars, vous les connaissez, là. Hey, c'est une vraie honte, là. C'est une fois en série depuis 2007. une fois avec des premiers choix par-dessus premiers choix, puis McDavid est là depuis une couple d'années. Puis regardez les clubs qui gagnent. Tu sais, les finalistes l'an passé, Boston, Saint-Louis. C'est qui les vedettes de ça? C'est qui? Il y en a, je dis pas que c'est pas des vedettes, mais c'est des vedettes qui acceptent de travailler, qui jouent dans les deux sens de la patinoire.
Faire autre chose que
Ovechkin a gagné pourquoi et quand et pourquoi ça a pris tant de temps. Il a compris.
Exact.
Ils ont tout compris. Puis regarde, Washington est transformé, même s'ils n'ont pas gagné l'an passé. Ils ont compris. Puis Claude Julien parle de commitment, de manque de commitment, de buy, je m'excuse des anglicismes, mais c'est comme ça que ça sort d'un point de presse, d'acheter, d'adhérer au système. Hey, il l'a dit publiquement à plus d'une reprise. Pour moi, c'est un problème. Vous me direz, c'est quoi maintenant? Qu'est-ce que ça nous annonce comme problème? Mais il y a un problème. Il y a des joueurs qui croient pas que de mieux jouer défensivement, ça va faire gagner l'équipe. Parce s'ils l'avaient cru, comment ça se fait que Columbus est aussi bien placé que ça après avoir liquidé autant de joueurs l'an passé? Est-ce quelqu'un qui peut m'expliquer ça? Fait qu'on comprend rien à ce qui fait une équipe gagnante, je pense. Puis, je nous inclus puis je nous inclus pas. Moi, je pense qu'on comprend pas pire. Mais tu sais, on regarde les vedettes, les premiers choix, les Austin Matthews. C'est une ligue de parité salariale. C'est ceux qui veulent le plus qui gagnent ultimement. Puis les équipes qui ont moins de trous. Puis oui, je prendrais Matthews, évidemment, dans mon club. T'sais.
Mais également, toutes les équipes qui ont connu du succès, donc que tu viens de nommer, c'est toutes des équipes qui ont des très bonnes défenses. Boston, en finale de la Coupe, Boston, depuis des années, entretiennent ça, avoir des duos défenseurs bien balancés, avoir des bons jeunes, des bons vétérans pour les entourer. Saint-Louis, c'était extraordinaire. Columbus, cette année, tu sais, Columbus a perdu, on le sait, là, on l'a répété souvent, mais la défense à Columbus,
c'est
ça va bien.
C'est l'apocalypse, là.
C'est une belle défense, là.
Mais ils ont pêché comme du monde, ils ont pêché comme du monde.
Tempa ont quand même atteint la finale de la Coupe Stanley, la finale d'association de l'Est dans un passé récent.
Il y a deux ans.
Alors, tu sais, Tempa, je pense que là, ils sont remis de leur début de saison épouvantable. Ils pourraient dépasser Boston au classement.
Mais ça reste à prouver.
Mais oui, ça reste à prouver. Oui, apprendre à gagner. Mais les Leafs, c'est que ils n'ont jamais passé proche. Puis justement, leurs lacunes sont tellement grandes en défense, ça n'a aucun sens. C'est comme s'ils n'avaient pas regardé cette position-là. C'est comme s'ils avaient dit, on va mettre tous nos œufs dans le même panier, on va se trouver un assez bon gardien en Fred Anderson, et après, on verra. L'été dernier, ils ont acquis Cody Ceci puis Tyson Barry, qui ont certaines qualités, mais Cody Ceci, qui est une catastrophe en défense. Tyson Barry, ça va mieux sous Sheldon Keefe que ça allait sous Babcock. Là, ils n'ont pas été chanceux, ils ont perdu Riley, mais il n'y a aucune profondeur à cette position-là. Il y a une équipe qui aspire à la Coupe Stanley, peut pas s'en aller à la guerre avec ces six défenseurs-là.
Est-ce que, moi, je vous pose la question, tu parles de bonnes défensives, tu as dit les bons clubs ont des bonnes défensives. Si je vous dis Chiarot, Weber, Romanov, Petrie, ton top 4, est-ce qu'il est bon?
Moi, tout de suite, en partant, là, je vais mettre un bémol là-dessus. Moi, avec Romanov, là, je dis attendons. Là, j'entends parler...
Est-ce que, admettons, si...
Ben, je suis pas capable de répondre, Jérémy. Romanov, alors je te dirais non, parce que Romanov, on sait pas. Puis okay. Je trouve qu'on a tellement tendance à s'emballer vite. Et là, on met, tu sais, Romanov dans le top 4. Hey, Kotkaniemi, c'est un troisième choix au total. On pensait qu'il deviendrait le gros joueur de centre. Sa progression irait tout le temps en montant. On le voit combien c'est long. On le voit combien c'est difficile. On le voit avec Peeling. 3 buts à son dernier match et même 4 avec okay. de la saison. Alors, je trouve qu'il faut être prudent. Puis, je trouve qu'avec les jeunes du Canadien, tu sais, quand j'entends Caulfield s'en vient, puis Romanov s'en vient, on disait la même chose avec Peeling. Hey, attendez que Peeling s'en vienne. Ça va être quelque chose. Puis, Kotkaniemi, quand il était... Alors, je trouve qu'on va trop vite. Cela dit, pour les autres, t'as nommé Chiarot, t'as nommé Petrie, t'as nommé Weber.
Et si t'ajoutes un bon défenseur gaucher sur le top 4, est-ce que t'as deux bons duos de défenseurs?
Ben, ouais, t'as deux bons duos de défenseurs. Je trouve quand même que Weber, c'est un gars qui ralentit un peu. T'sais, dans les derniers matchs, il y a eu des ennuis. Contre Washington, il y a eu des ennuis. Dans la défaite subséquente, il y a eu des ennuis aussi. Je pense qu'il joue trop pour un gars de son âge. Alors, il faudrait mieux équilibrer.
Mais je veux juste ajouter que Claude Julien l'a attendu toute l'année, ce défenseur-là. Là.
Ouais. Au début de l'année, c'était... Il l'a mentionné, tu te souviens?
Il l'a même mentionné en plein point de presse.
Puis c'est arrivé avec Scandella qui fait pas nécessairement...
C'est pas si automatique que ça que le trou est bouché. Ils l'ont pas bouché de l'année.
Clairement.
Et à mon sens, le défenseur gaucher qui compléterait ce top 4-là, il faut pas qu'il soit derrière Chiarot, il faut qu'il soit devant Chiarot, parce que je pense que Chiarot fait bien de bonnes choses, mais on l'a vu hier soir, pauvre Chiarot, en avantage numérique hier, il était
paniqué.
Mais
il essaie d'en faire plus.
C'est pas un spécialiste d'avantage numérique. Il doit pas avoir joué en avantage numérique depuis junior. Sauf que dans la hiérarchie du Canadien, pour que si le Canadien aspire à des grandes choses, ben Chiarot, faut pas qu'il soit ça. C'est pas un défenseur peut-être.
Non, je ne peux pas jouer dans toutes les situations.
Non. Alors, c'est ça. Puis après ça, Romanov, je suis d'accord avec Philippe là-dedans, dans le sens que je ne vais pas rêver d'un défenseur que j'ai jamais vu jouer dans la Ligue nationale. S'il arrive au camp et qu'il casse tout et qu'il est le meilleur, mais je vais être content pour lui et pour le Canadien. Mais en attendant, je pense que le Canadien a quelques bons éléments en défense, mais on a surtout des très inefficaces.
Donc, ça veut dire qu'on doit parler de ce qu'on voit pour être capable de juger. Bon, si on regarde ce qu'on voit, là, moi, il y a un gars, j'ai l'impression qu'il passe un peu en dessous du radar, c'est Jeff Petrie. Ce gars-là est tout un défenseur chez les Canadiens. Puis, sincèrement, pour moi, c'est le meilleur défenseur du Canadien
moi,
de Montréal.
C'est mon joueur préféré depuis quelques années.
Écoute, je vais vous dropper, j'utilise le terme, mais je vais vous lancer une statistique qui, pour moi, m'a jeté à terre. Écoute, depuis la saison 2017-2018, Jeff Petrie, c'est le 18e meilleur pointeur en défensive dans la Ligue nationale de hockey. Tu sais, le gars, là, pour nous autres, c'est Jeff Petrie, OK, parfait, bon, des fois mauvais, des fois plus ou moins engagé. Le gars, c'est tout un défenseur dans la Ligue nationale. Fait que donc, il va falloir se rendre compte à un moment donné que ça vaut la peine.
Ouais, mais c'est plus ou moins engagé. Regarde la colonne des mises en échec. C'est pas lui qui en distribue le moins. Puis je veux juste dire bien rapidement que quand t'as tout le temps la rondelle, parce qu'on a besoin que t'aies tout le temps la rondelle, parce que c'est toi qui bouge le mieux, qui patine le mieux, etc., ben, tu vas être susceptible de commettre plus d'erreurs que Dave Louise. Tu sais,
c'est ça. Voilà. C'est bien comme ça. Mais tu sais, souviens-toi,
quand
Jérémy...
Quand Jacques Coulac, il y a des chances aussi. Ouais. Il y a des chances.
Souviens-toi, même l'an dernier, en fin de saison, là, tout le monde disait que c'était lui maintenant le numéro un du Canadien en défensive. Là, alors, Weber a mieux joué qu'en début de saison, même dans, mieux joué de façon générale cette année que l'an dernier. Mais l'an dernier aussi, déjà, Petrie était placé, en tout cas dans les deux derniers mois de la saison, comme premier défenseur de l'équipe. Alors, tu sais, est-ce qu'on l'échange? Ben, je pense encore une fois qu'il faut être prudent. Mais tu sais, ça aussi, les conversations sur les échanges, je trouve que c'est super le fun. Là. Puis je lis toutes les rumeurs, moi aussi, puis on s'abreuve à ça, puis c'est le fun. C'est de la belle discussion. Mais c'est très difficile à parler de ça vraiment avec profondeur, parce qu'on sait jamais c'est qui est disponible, puis quel genre de transaction dont on parle, puis tu sais, tu lis sur les sites, telle équipe est installée, est intéressée à tel joueur, puis on parlerait de peut-être échanger lui, tout ça. Mais on sait bien, tu sais, qui avait vu venir Subban Weber, là? Moi, j'avais jamais lu ça avant. Tu sais, alors, tu sais, les vraies grosses transactions, là, qui avait vu venir celle des Maple Leafs de Toronto cette semaine? Tout le monde savait que Toronto cherchait un gardien de but réserviste. J'avais pas lu ça avant. Alors, souvent, les transactions qui arrivent, regarde, on n'en a jamais parlé auparavant.
Mais aussi, mais en fait, je suis 100% d'accord avec toi. Puis, cette semaine, c'est The Athletic qui écrivait, en fait, qui disait, il y a la fois où Ilya Kovalchuk a failli venir à Montréal, il y a presque 20 ans, parce que le Canadien, avec André Savard comme directeur général, était très impliqué dans la course pour aller acquérir ce premier choix-là. Et je pense que c'est Marc-Antoine Grenet qui l'écrivait, les Trashers voulaient José Théodore. André Savard disait, choisis un gardien. J'ai Mathieu Garon qui est le jeune gardien. J'ai Jeff Hackett qui est un vétéran. Et les Trashers disaient, ben nous, on veut Théodore. Savard a dit non. Et même en y repensant aujourd'hui, dire, est-ce que si le Canadien avait acquis Kovalchuk à l'époque et perdu José Théodore, qu'est-ce que ça, tu sais, est-ce qu'on fait cet échange-là? Oui, c'est sûr que Kovalchuk, ça vaut autant de la renommée, mais Théodore, ça a été le gars qui a relancé cette équipe-là au début des années 2000.
Le joueur le plus utile de toute la Ligue nationale. De toute la Ligue nationale.
Exactement.
C'est drôle parce que j'en ai parlé hier, André Savard, il était là au Centre Bell, puis on a eu cette conversation-là. Là, il me parlait, il avait mis Ron Hennessy qui était là-dedans également. Il y avait deux choix de premier tour.
Marcel
Ossa là-dedans. Et en plus, il interchangeait les choix au prochain repêchage, les choix de premier tour avec les Trashers d'Atlanta. Il dit, pour moi, c'est un bon dé. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas dit non, qu'ils n'ont pas dit oui, mais en fait, c'est ça. C'est Théodore qui était vraiment la pièce maîtresse.
Mais les gars, je regarde la situation du Canadien. Je ne sais pas ce qui va se passer d'ici la fin de l'année, mais c'est un peu pour rebondir par rapport aux rumeurs d'échange, parce qu'encore faut-il savoir où l'organisation veut aller. Puis moi, je pense qu'ils vont vouloir rebondir rapidement l'an prochain, comme ils ont fait l'an passé. Tu veux pas traîner dans la boîte une couple d'années consécutives. Surtout, puis on peut deviner que leur discours de fin de l'année, ça sera pas de nous annoncer qu'ils vont aller plus bas l'an prochain. Ils vont vouloir rebondir. Je pense qu'ils vont vouloir garder le gros de leurs joueurs. Et je parle pas d'une équipe de calibre de Coupe Stanley. Puis il y a personne qui parlait des Blues comme d'une équipe de calibre de Coupe Stanley l'an passé.
Je pense que... Je suis pas d'accord. En début de saison, ils avaient fait beaucoup d'acquisitions. Les Blues avaient tout un club de hockey. Ça n'a pas marché pour eux, mais c'était...
Je regarderais sur les prédictions des preneurs au livre, je regarderais sur les prédictions
de tous
les
joueurs. C'était un bon club de hockey. Clairement, c'était un bon club de hockey.
Il y avait une bonne équipe de hockey, mais on ne leur annonçait pas la coupe. Moi, je pense que le Canadien, il y a de quoi qui n'a pas marché. Il y a plusieurs petites affaires qui n'ont pas marché. Il y a eu les blessures. Je pense honnêtement, puis je pense pas que j'ai des lunettes roses, que ça peut redevenir une pas pire équipe vite, assez vite. Ouais. Puis l'affaire qui l'empêche de devenir une bonne équipe vite, c'est que le pipeline de talent fournit pas. Puis là, ben, on achète du temps en attendant que ces talents-là arrivent. Suzuki, là, la seule présence de Suzuki cette année rend possible l'illusion. Enlève Suzuki, il n'y en a pas d'illusion. Fait que là, prie le petit bon Dieu à genoux par deux mains, puis allume des lampions pour que Kotkaniemi l'an prochain revienne les dents sorties. Je veux ma job, je veux jouer pour ce club-là. Pas c'est tout cuit dans le bec, puis oh, le coach me fait pas confiance. Moi, je suis une star, j'ai été repêché, j'ai jamais été dans la ligue mineure, parce que c'est ça qui a transpiré de ses derniers commentaires. Fait que t'es à un ou deux bons jeunes joueurs, comme Suzuki, puis je pense que c'est ça qu'ils ont en tête. Puis des fois, j'étais un peu fâché, cynique, c'est pour ça que les pubs, on égratigne un peu. Mais c'est vraiment ce que je pense. Je pense que cette équipe-là peut redevenir compétitive rapidement, puis je pense qu'ils vont malheureusement trop tard finir de façon un peu compétitive cette fin de saison-là.
Mais il va falloir se rendre compte d'une chose, c'est que présentement, le club, c'est un club du deuxième tiers de la Ligue nationale. C'est pas un club du premier tiers.
Non, c'est sûr.
Un coup, t'acceptes, c'est un club du deuxième tiers, parce que du premier tiers, t'as un vrai premier trio, ce que le Canadien n'a pas présentement, selon moi.
Il lui manque quoi pour un club de premier tiers? Puis je vais te répondre.
Un vrai premier trio.
Il manque d'adhérer au système de jeu, notamment.
Mais pas de troisième tiers. Pas de troisième tiers.
Non, de deuxième tiers. OK, mais pourquoi deuxième tiers? M'a dit pourquoi deuxième tiers. Je vais vous donner un top 6, puis dites-moi ça, si c'est un mauvais ou un bon top 6. Tatar, Dano, Gallagher, Kovalchuk, Suzuki, Drouin. Excusez-moi, là, ça, selon moi, c'est un bon top 6 de la Ligue nationale. Pas des Capitals de Washington, mais un top 6 qui est capable de compétitionner beaucoup plus facilement pour avoir une place en série de fin de saison.
C'est la meilleure équipe qui gagne, les gars.
C'est sûr, ben oui.
C'est la meilleure... Non, mais c'est sûr que
c'est banal à dire. On peut dire des chiffres, là, mais en fait, c'est sa patinoire
qui
se joue.
C'est ceux qui jouent le plus ensemble. Les équipes championnes, là, tu pas confondu, les gars. Les Chiefs viennent de gagner. On dit quoi après un championnat? Qu'est-ce que les clubs champions disent après un championnat? Que ce soit les Raptors l'an passé ou n'importe qui. Écoutez la cassette, ils disent tous la même affaire. Ceux qui n'ont pas compris ça parmi les joueurs puis qui ne mettent pas en application avant de gagner. Ils vont regarder passer la parade. Ouais,
mais tu sais, tu dis Raptors, moi j'entends Kawhi. Tu dis les Chiefs, j'entends Mahomes.
Ouais, moi au basket, Canadien, le meilleur joueur est toujours sur le terrain. Là,
j'entends.
Ça prend une vedette.
Ça prend un gros joueur.
Boston et Saint-Louis, les deux finalistes l'an passé, l'avait-il ce gros joueur-là?
Pasternak, écoute.
Pasternak, oui.
Dans minutes, on commence à parler de la grosse pointure.
Là, je parle de statut de vedette, il est en train de l'atteindre, mais on ne peut pas dire qu'il y avait ce rayonnement-là encore.
Brad Marchand, Patrice Bergeron, c'est des joueurs vedettes. Des énormes statuts dans les nationales chez les Blues. Tarasenko, je sais pas si je bâtirais un club autour de Tarasenko, mais c'est un joueur de concession. Et même O'Reilly, exactement.
Non, mais ce que je veux dire, là, c'est pas McDavid, c'est pas Matthews. Là, c'est pas eux autres qui font saliver tout le monde, mais oui, je suis pas en train de dire qu'ils ont gagné la Coupe Stanley.
Non, peut-être parce qu'ils n'ont pas le côté star de McDavid. Ça, quand McDavid accélère, puis il y a quelque chose de très, très spécial dans tout ça. Peut-être que ceux dont on mentionne ne l'ont pas, mais Pasternak, cette année, est en train de changer la perception.
Ça serait le fun que Montréal gagne contre Toronto, avouez, là. Non?
Ben oui, c'est le fun.
On est à la même place. Ben. Marc, tu peux faire deux pubs si vous gagnez le match. Mais des pubs de Kodiak. Sinon, oncle Phil et moi, on va se fâcher. C'est toi qui t'es baptisé.
Ouais, c'est ça. Mais c'était juste pour ce podcast-là. Après ça, on arrête.
Okay. Ouais, mais moi, j'aille pas ça.
Non. Il y a rien que moi qui peut m'appeler mon oncle.
Prédiction, les boys. Prédiction, Toronto-Montréal, en terminant, là.
Moi, je dis un match qui va aller en prolongation, tu sais, une victoire du Canadien, pourquoi
pas.
Oh! Ah, mon Dieu.
Pour la dernière fois, salut, oncle Phil, et merci de ta prédiction positive.
Hey, ça fait plaisir.
OK, moi, je vais cracher dans ça. Je pense que le Canadien ne gagnera pas contre Toronto.
Je veux dire, le Canadien ne gagnera pas non plus.
Ah, écoute, si Philippe a prédit une victoire du Canadien, j'ai pas le choix de suivre. Là. Écoute, le Canadien va gagner ça. Voyons donc. Aïe, 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 on se guérira jamais, les gars.
Non.
Merci d'avoir été là, tout le monde. Merci. C'était Sortie de zone. Ciao, ciao.